Solidarité avec les sans-papiers.
J'en perds mon.
Ils sont mis des papas ou des mamans en prison.
Solidarité avec les sans-papiers.
RESF, réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
دغرج لي ما دكلي بهر مرا بريك دي دغرج لي ما دكلي بهر مرا بريك دي.
Bonjour, comme tous les mercredis, vous êtes à l'écoute de RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et rfpp.net en banlieue. Donc aujourd'hui, nous devons recevoir, je crois, des nouvelles de Lampedusa. C'était Nicanor qui devait nous appeler, mais je crois que c'est Jolène qui est en ligne tout de suite. Donc on commence tout de suite avec Jolène et on fera l'introduction de l'émission après. Allô, Violaine ?
Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour Violaine, comment vas-tu ?
Eh bien, chaudement, mais très bien.
Ouais. Tu nous appelles de Lampedusa, je crois.
De Lampedusa, voilà.
Voilà, et donc tu vas nous raconter ce qui s'est passé avec les, j'allais dire, avec le Jungle Tour, avec Boat for People.
Voilà.
Voilà, donc Boat for People, tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est, bon, quoi qu'on en a beaucoup parlé sur cette antenne et qu'on continuera à en parler d'ailleurs.
J'espère bien, parce que cette aventure qui est en train de se terminer à Lampedusa maintenant est une aventure qui n'est que la première d'une série d'autres dont on ne sait pas encore quelles seront, mais on est bien tous décidés à ce que ça ne soit qu'une première initiative. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs émissions déjà sur Boat for People, mais peut-être que tout le monde n'a pas entendu déjà. Boat for People, c'est évidemment le nom est déjà lui-même un indice de ce dont il s'agit. Les Boat People, c'était des personnes qui étaient en mer et sinistrées en mer après la guerre du Vietnam. Et cette expression, on a trouvé intéressant de la reprendre à propos des morts en Méditerranée, de toutes les personnes qui disparaissent, font naufrage, errent pendant des jours et des jours avec insuffisamment d'eau ou de vivres ou de carburant et finissent éventuellement par mourir déshydratés ou morts de soif. Et on a lancé à quelques organisations au départ et un peu plus, je vais dire lesquelles maintenant, une action au moment où il y avait des opérations militaires en Libye et on se disait comment se fait-il qu'il y ait en ce moment autant d'yeux sur la mer Méditerranée, les yeux des avions, les yeux des hélicoptères, les yeux des bateaux liés à l'opération en Libye et que dans la même période il y ait un nombre de morts beaucoup plus grand encore que d'habitude. Et cette situation nous a fait nous dire qu'il fallait que des citoyens agissent pour dire que c'était insupportable, ces morts en Méditerranée, que c'est insupportable que des bateaux ne soient pas secourus, que c'est insupportable que des bateaux soient interceptés et renvoyés dans des pays où leurs passagers risquent gros la vie éventuellement, l'emprisonnement, des tortures, que sais-je, que c'était insupportable, que tout ça se fasse comme si c'était au nom de l'ensemble des citoyens, comme si on était d'accord pour que ce soit de cette façon que l'Europe protège ses frontières. Donc l'idée a germé petit à petit, s'est construite avec des réseaux internationaux qui existent déjà, à la fois le réseau de la FIDH, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, le réseau Migre Europe, un réseau qui s'appelle Afrique Europe Interact, et puis des organisations dans différents pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Mali, le Maroc, les Pays-Bas, la Tunisie, c'est-à-dire aussi bien des pays de la rive nord que de la rive sud de la Méditerranée. L'objectif de l'action étant, bien entendu, de dénoncer ce qui se passe et l'effet des politiques migratoires sur les traversées de la Méditerranée pour des migrants qui n'obtiennent pas le droit de franchir cette frontière autrement qu'avec ces risques, mais aussi de nouer des contacts entre les organisations du Nord et du Sud pour marquer de la solidarité entre les deux rives sur ce sujet.
Voilà. Et donc vous êtes parti, je crois, le bateau est parti donc le 30 juin.
Voilà, c'est ça. Tout début juillet, on profite. On est, en fait, il est parti de Toscane, d'une petite ville qui s'appelle Cecina, près de Florence, où se tient chaque année, depuis des années, des rencontres internationales d'une association, d'une très grosse association italienne qui s'appelle Arci. Et ces rencontres interracistes sont un lieu de rencontres interassociatifs. Et on a profité de cette occasion pour avoir des débats sur ces politiques migratoires, le droit de la mer, le droit des migrants, faire partir le bateau de là. Le bateau est allé donc de Cecina à Palerme, où l'accent a été mis particulièrement sur les questions de droit de la mer et les contradictions, on pourra sans doute en reparler, les contradictions entre le droit de la mer et les politiques concernant les migrations. Et puis ensuite, le bateau est parti de Palerme vers Monastir, en Tunisie. Alors, pourquoi Monastir? Parce que à Monastir, qui n'est pas seulement la ville de Bourguiba, c'est aussi une ville dans laquelle se préparait, au cours de quelques journées, le prochain forum social mondial qui aura lieu en Tunisie en 2013. Et donc, là encore, il y a eu l'occasion d'échanges, de meetings, de réunions entre organisations avec des Tunisiens, avec la société civile tunisienne présente sur place. Et puis, de Monastir, le bateau est parti à Lampedusa, où il est actuellement.
Oui, et je crois que déjà, au tout début du voyage, il y avait des Maliens qui devaient venir avec vous, qui n'ont pas pu venir.
Alors déjà, en effet, il y a eu des empêchements à la liberté de circulation déjà par le fait que des personnes qui devaient participer à l'opération, monter sur le bateau, n'ont pas obtenu les visas nécessaires. Aux rencontres d'Archi, de même, il y a eu des personnes qui n'ont pas pu venir. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où tout motif de voyager qui paraît très simple pour les Européens, c'est-à-dire, voilà, je vais à une rencontre, je vais à un séminaire, je vais participer à une action, à un mouvement social, voilà, mais ce n'est pas plus possible que je viens voir mon petit-fils qui vient de naître, ou ma femme, que je viens d'épouser, ou des cousins que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est-à-dire que, la question que les ambassades et les consulats appellent le risque migratoire est pesée avec une circonspection plus qu'extrême, et elle prive du coup de droits de toutes sortes, quoi, des droits familiaux, des droits de liberté de mouvement et des droits à participer à des mouvements internationaux, à des mouvements de solidarité internationale, à des rencontres au cours desquelles les citoyens essayent de réfléchir ensemble à ce qu'ils veulent promouvoir comme société plus juste et plus égalitaire. Et ces moments de réflexion, ils sont précieux parce que, bien sûr, on peut communiquer par téléphone, par Skype, par mail, par toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais on se rend bien compte, et justement l'expérience de Cecina ou l'expérience de Monastir prouve bien à quel point le fait de se voir, de partager ensemble des moments, d'être dans des réunions ensemble, et puis tout ce qui se dit off, les réunions, tout le monde sait que dans les réunions il y a le off qui compte beaucoup aussi, donc autour d'un café en attendant que la réunion commence, le déjeuner de midi ou dans une promenade le soir, enfin tous ces moments-là sont des moments de renforcement des liens, de meilleure connaissance des cultures associatives ou organisationnelles des uns et des autres, de meilleure connaissance des contextes politiques dans lesquels les uns et les autres agissent. Et c'est tout cela qui ne peut pas s'échanger dans une réunion Skype où on va évidemment pouvoir organiser quelque chose, prendre des décisions communes, mais pas échanger concrètement. Et bien voilà, les citoyens du Sud sont privés du droit d'échanger avec les citoyens du Nord et de nouer des liens comme il est légitime que les humains puissent nouer des liens politiques de citoyenneté.
Voilà. Et donc à Monastir, il y avait une réunion, la préparation du Forum mondial, et vous étiez sur la partie qui doit parler justement des migrations dans le Forum mondial. Et en même temps, il y a eu un drame épouvantable, hein, puisqu'il y a eu 53... Enfin, vous avez rencontré le seul survivant d'un bateau qui a fait naufrage et où il y a eu, je crois, 54 morts.
Voilà. Ça a été en effet une coïncidence très, très frappante. C'est qu'en effet, le seul rescapé de ce naufrage a pu être contacté et l'un d'entre nous a pu le rencontrer, enfin deux d'entre nous ont pu le rencontrer, il a fait une interview de lui dans laquelle il raconte, c'est absolument poignant ce témoignage, ce qui lui est arrivé, le parcours qu'il a fait, comment il est resté 14 jours accroché à des bouts d'épave dans l'eau sans savoir trop s'il serait secouru ou pas. Voilà, donc cette histoire-là est en effet une histoire qui vient illustrer de façon très, très, très forte la façon dont les politiques européennes sont absolument criminelles. Et les récits et les témoignages qui ont été enregistrés par les uns et par les autres, les organisations du comité de pilotage que j'ai cité tout à l'heure, mais bien d'autres aussi, ne cessent de décrire des situations, mais vraiment dans lesquelles on a l'impression que on est en impunité totale. Et l'idée de Boat for People, c'est non seulement cette opération avec un bateau, qui est une opération un peu symbolique, une opération pour représenter la solidarité et pour organiser une jonction entre les deux rives, mais c'est aussi l'occasion dans notre esprit à tous d'essayer de réfléchir à des moyens de lutte. Et parmi les moyens de lutte, Boat for People s'est associé à un groupe de personnes, d'organisations qui sont parfois les mêmes ou d'autres, qui ont décidé de réfléchir à des moyens de porter plainte ou d'avoir des actions en justice pour que cesse justement cette impunité. Parce que c'est terrible lorsque un État, par exemple, là on vient d'avoir là à Lampedusa des récits de pêcheurs qui sont vraiment des gens extraordinaires. Il y en a un auquel je pense à la minute qui est quand même fabuleux parce que lui, il a perdu son activité de pêcheur. Il était proche de l'âge de la retraite, mais il n'y était pas encore. Parce que il s'est retrouvé avec 40 jours sans pouvoir travailler, parce qu'à Lampedusa, il y avait à ce moment-là 800 personnes sur le quai où est amarré son bateau, et qu'évidemment, il ne pouvait plus partir faire la pêche. Et sa femme et des amis et des voisines de sa femme ont apporté à manger des couvertures et des vêtements, des collègues de vêtements, etc. Et lui, il a eu son hangar, le hangar dans lequel il abritait son matériel de pêche, complètement détruit. On est allé le voir, c'est une épave, ce hangar, et c'est fabuleux de voir ce monsieur qui a tout perdu, qui n'a eu pour l'instant aucune indemnisation. On va essayer de réfléchir à voir avec lui comment on peut le défendre et l'aider à obtenir des indemnisations. Et bien, au lieu d'être plein de rancœur, et au lieu de dire c'est scandaleux, et au lieu de dire ces étrangers, il faudra tous les remettre à la mer, ce monsieur, il dit, mais c'est normal, ils sont arrivés en février, en mars, où ils sont arrivés en octobre et ils avaient froid. Donc tout ce qui pouvait faire du feu, qui pouvait leur permettre de se réchauffer ou de se faire bouillir du thé, eh bien ils l'ont brûlé. Et il n'a pas une seconde, pas une parole d'hostilité envers ces migrants qu'il a aidés, qu'il continue à aider, et il est encore venu à bord de notre bateau pour discuter avec nous de cela, de la façon dont les pêcheurs seraient moins dissuadés, moins réticents à effectuer des opérations de sauvetage ou à alerter lorsque des migrants sont à bord de bateaux en péril, s'ils n'étaient pas face à des risques comme ce qu'il a subi lui, quoi, c'est-à-dire toute son activité détruite et aucune indemnité, aucun remboursement, rien. Voilà. Et il a eu de la chance, si on peut dire, parce qu'au moins il n'a pas été poursuivi comme d'autres pour avoir aidé des étrangers en situation dite illégale.
Voilà, et d'ailleurs, la première fois, en ce qui me concerne, que j'ai entendu parler de Lampedusa et d'une autre ville et d'un autre port qui s'appelle Agrigente, c'est justement parce que des marins, des pêcheurs tunisiens en l'occurrence, avaient porté secours à des boat people qui étaient en train de faire naufrage. Et ils ont, eux, perdu leur bateau parce qu'ils portaient secours, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme des passeurs. Et c'était devenu de l'aide à l'immigration irrégulière.
Alors attention, c'est important de dire que en première instance, en effet, ils ont été jugés et condamnés comme passeurs. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'ils avaient des techniques de pêche qui faisaient qu'ils étaient à plusieurs bateaux et l'un d'eux n'avait pas de filet. Et donc ça a été un des arguments de la justice pour dire vous ne pouvez pas être un pêcheur, vous n'avez pas de filet de pêche. Or, c'est des techniques de pêche qui se font à plusieurs bateaux dans lesquels les filets ne sont pas sur les trois bateaux. Et les responsables de ces bateaux, les propriétaires de ces bateaux, ont été sévèrement sanctionnés, puisque tout de même, ils ont été emprisonnés pendant un an, leurs bateaux confisqués pendant un an, etc. Mais c'est important de dire tout de même qu'à l'issue de cela, en appel, ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire qu'il leur a été reconnu le droit et même l'obligation de porter secours à des personnes. C'est vraiment, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, et c'est aussi un axe très, très important de la campagne de Vote for People, c'est d'insister sur le fait que, pour l'instant, et on espère que ça va durer, le droit de la mer est reconnu. Qu'est-ce que c'est le droit de la mer? C'est un droit d'abord très antique, c'est un droit que connaissaient les Phéniciens, les premiers navigateurs, qui était la nécessaire solidarité entre bateaux. C'est-à-dire que forcément, le plus gros bateau doit porter secours au plus petit, le plus gros doit essayer de ne pas mettre en danger par ses mouvements le plus petit, etc. Il y a des formes de solidarité qui sont vraiment ancestrales. Et elles ont été fixées dans le droit international avec une série de conventions. C'est un très très long travail d'élaboration d'un droit écrit, d'un droit conventionnel, avec des conventions de l'ONU, une convention qui s'appelle SOLAS et une convention qui s'appelle SAR, Search and Rescue, S comme Search and Rescue. Et cette dernière convention, qui a été signée par un certain nombre de pays, mais pas ratifiée par tous, ratifiée par quelques-uns, mais pas appliquée par tous, prévoit qu'il y ait des dispositifs dans chaque port ou dans chaque zone avec tout ce qu'il faut pour que les messages d'alerte d'un bateau en danger soient diffusés le plus rapidement possible, que très vite on sache quel est le bâtiment, le navire, le bateau qui est le plus en capacité d'aller porter secours aux personnes en détresse. Tout cela est réfléchi au niveau international. Le gros problème de ce droit antique, mais aussi aujourd'hui écrit, c'est qu'il se voit évidemment en contradiction avec le droit, si je puis dire, le droit des étrangers, parce que c'est d'abord au niveau de l'Union européenne et dans des relations bilatérales entre États de l'Union et du sud de la Méditerranée, qui sont ceux dont on a mille fois parlé dans les émissions de Fréquence Paris Pluriel, c'est-à-dire les accords de réadmission, c'est-à-dire l'incitation que des pays intègrent dans leur réglementation l'interdiction d'émigrer, et c'est le cas en Algérie, en Tunisie, au Maroc, émigrer, c'est-à-dire quitter son pays, est un délit, alors même que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que tout homme a le droit de quitter son pays, tout pays, y compris le sien. Et c'est sous la pression de l'Union européenne, les États du Maghreb ont accepté d'intégrer cet ahurissant délit d'émigration. Et puis, il y a tout le reste, toutes les politiques de surveillance des frontières, les politiques de délivrance des visas, les politiques de vérification des documents d'identité des personnes lorsqu'elles franchissent une frontière, arrivent sur un espace, une portion de l'espace Schengen, de l'espace européen. Tout cela avec des moyens qui sont des moyens aujourd'hui militaires, c'est-à-dire que l'agence européenne Frontex, qui est chargée de mettre en œuvre donc la surveillance des frontières, pas seulement la frontière méditerranéenne, mais elle aussi, dispose de moyens absolument gigantesques, des avions, des drones, etc., des radars, soit par elle-même, soit avec des systèmes d'obligations par les États membres de faire utiliser par Frontex leurs moyens militaires. Je dis militaires, c'est pas forcément des engins militaires notamment, mais ils ont un rôle, ils ont une mission, ils ont une façon de se conduire qui est vraiment militaire, c'est-à-dire qui mène la guerre aux migrants.
Et quand on voit le nombre de morts qu'il y a, parce que tu disais que c'était par hasard que en arrivant à Monastir, en fait à Zarziz, vous aviez rencontré ce survivant d'un bateau qui a fait 54 morts. Et on a plusieurs histoires. Donc tu parlais. Donc il y a aussi le groupe Plainte qui s'est constitué. Je crois. Enfin, je sais pas si le groupe Plainte c'est son vrai nom. Hein.
Oui, c'est un nom provisoire. On va voir. Sans doute qu'à la rentrée, on réfléchira à la façon dont on va s'articuler Vote for People, ce travail du groupe Plainte qui va sans doute s'élargir encore. Un autre dispositif dont on peut parler aussi ici, tout à l'heure, si tu veux, c'est Watch the Med, donc il va être important de d'expliquer un petit peu ce que c'est, je crois. Donc ce groupe Plainte, en effet, c'est un groupe qui est né au départ de l'idée qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement. Alors on est parti de cette phase assez ambitieuse en se disant est-ce qu'on attaque l'OTAN, est-ce qu'on attaque Frontex, est-ce qu'on attaque l'Union Européenne, est-ce qu'on attaque la France, l'Italie, Malte, etc. Rien de tout ça n'est exclu. Pour l'instant, on a procéder au plus, pas au plus facile, mais à ce pourquoi on avait le plus de matériaux déjà. Et on a commencé à travailler à partir d'une affaire qu'on appelle entre nous l'affaire Guardian, parce qu'elle a été révélée par un journal italien qui s'appelle The Guardian. Et ce cas Guardian est un naufrage absolument terrible, avec des rescapés qui racontent les uns et les autres qu'ils ont croisé sur leur route, au moment où ils étaient en difficulté, des bateaux, des avions, des hélicoptères qu'ils ont survolés. Ils disent que les hélicoptères les ont pris en photo tellement ils ont l'impression d'être observés de près, quoi. Des bateaux qui leur ont adressé la parole avec des porte-voix, etc., qui leur ont dit « j'ai pas, on revient ». Enfin, voilà. De ce type de témoignages-là, à partir de là, un travail a été fait pour bien enregistrer ces témoignages, pour les traduire, pour voir là où ils se concordaient ou ne concordaient pas, parce que c'est pas évident quand on a passé des jours et des jours en mer et qu'on a été rescapé, mais qu'on a vu des morts autour de soi, les co-passagers sont morts autour de soi, c'est pas évident de se rappeler si c'était un mercredi ou un jeudi qu'on a vu passer tel bateau, quoi. Donc on a essayé de faire ce travail sur ces témoignages, et ensuite on a travaillé avec de recrues superbes de cette activité, des chercheurs qui travaillent sur l'espace, sur l'image et sur les cartes, la cartographie, et qui se sont servis d'images satellites pour regarder comment coïncidaient les récits des passagers de ce naufrage et des points sur la carte où on voit que ben voilà, tel jour, à telle heure, un bateau qui était de telle nationalité, qui mettait tel pavillon, de telle taille, etc., est passé à tant de milles nautiques de l'embarcation. Et à partir de là, on a déposé une plainte. Alors, juridiquement, c'est une plainte contre X, mais en fait, quand on regarde le texte de la plainte, on comprend que c'est une plainte contre l'armée française. Et c'est, voilà, c'est une bataille qui, dans notre esprit, n'est que la première d'autres. On a justement parlé à Archie des droits de la mer et de l'obligation de porter secours et des infractions des États et des corps des États, les gardes-côtes, les douanes, etc., etc., par rapport à ces obligations. Et on est sur le chemin que d'autres plaintes sans doute soient déposées par les Espagnols, par les Italiens, sur des motifs divers, parce qu'il faut adapter les choses aux droits nationaux, enfin au système de qualification des délits pénaux, etc. Mais notre but, c'est vraiment de poursuivre pénalement, de poursuivre en justice pour non-assistance à personne en danger, par exemple, pour non-respect des obligations de secours en mer, ou pour avoir rapatrié une personne dans un pays où elle risquait la vie, parce que ça, c'est a priori exclu, alors c'est exclu dans des termes un peu elliptiques, mais c'est exclu par les conventions Solas et SAR dont je parlais tout à l'heure, et puis c'est exclu évidemment par la Convention de Genève, par exemple, qui protège le droit des réfugiés.
Voilà, je crois que c'est un de vos objectifs hein, aussi, qui est de fournir des outils juridiques aux marins, aux navigateurs qui porteraient secours et qui respecteraient le droit de la mer.
Voilà, alors ça c'était également un autre volet sur lequel on n'avait pas eu le temps d'avancer beaucoup, beaucoup avant de partir. Et c'est très intéressant de voir à quel point ça soulève l'intérêt. C'était très frappant à Palerme, il y a une conférence de presse qui s'est tenue sur le bateau et les journalistes avaient beaucoup beaucoup de questions sur ce point-là qui est assez méconnu, hein, le droit de la mer aujourd'hui, en quoi il consiste exactement. Cette histoire de ce qu'on appelle le délit de solidarité, donc tu faisais référence à cette affaire de poursuite de pêcheurs tunisiens, mais il y a eu quelques autres affaires, pas des centaines non plus par rapport au nombre de cas de figure, mais il y a eu des affaires avec des poursuites et c'est important de dire aux marins, de faire savoir aux marins que à chaque fois, le verdict final, ça a été, vous avez eu raison, vous auriez eu tort de ne pas le faire, vous étiez obligé de porter secours à ce bateau dans les conditions dans lesquelles vous étiez, etc. Vous avez même eu raison, la justice a dit ça à un capitaine qui n'aurait pas obtenu le droit de ramener à terre les rescapés qu'il venait de sauver. Il a forcé l'entrée dans le port, je reprends les termes de l'accusation qui lui était faite, il a forcé l'entrée dans le port, et la justice a dit qu'il avait eu raison de forcer l'entrée dans le port. Et à l'inverse, un capitaine qui avait lui refusé de porter secours et qui avait même jeté à l'eau des passagers de l'embarcation de migrants, lui a été condamné pour n'avoir pas respecté ses obligations. Donc c'est important de faire savoir ça parce que pour l'instant les marins, et on peut le comprendre, ils sont évidemment inquiets par ce qu'ils entendent et aussi par les réponses qui leur sont faites. Là on a eu des témoignages là, à Lampedusa tout récemment de personnes qui disent « mais moi si je vois un bateau de migrants, ça m'est arrivé, j'appelle les gardes-côtes, les gardes-côtes me disent « circulez quoi ». C'est-à-dire que normalement, la règle, c'est que si le bateau qui donne l'alerte n'a pas la capacité, lui, de sauver les personnes, il doit donner l'alerte et rester à proximité du bateau en péril pour que le sauvetage puisse se faire, pour que le bateau ne sombre pas hors de la vue de tout le monde. Donc ça, tout ça, c'est vraiment très très important de faire savoir. On a fait une petite note à destination des marins. Pour l'instant, on est en train de la tester, c'est-à-dire qu'on la montre à des marins et on leur demande si, à leur avis, c'est rédigé dans les termes qu'il faut, est-ce que comment ça peut être reçu par les marins, etc. Et à la rentrée, je pense qu'on aura recueilli un certain nombre d'avis sur cette petite note et on pourra la traduire en plusieurs langues, la mettre en page, la diffuser. C'est un des objectifs de cette flottille. Et sur ce point-là, le voyage là du bateau est vraiment très précieux parce que c'est le mieux pour rencontrer des marins que d'être à bord d'un bateau. Les marins eux-mêmes viennent d'ailleurs, s'approchent du bateau. Il se trouve qu'en plus, on a eu la chance extraordinaire grâce à l'association Arch, qui fait partie du comité de pilotage de Boats for People, d'être en contact avec l'organisation qui nous a passé son bateau, sur laquelle le bateau... sur laquelle Boats for People fait son voyage, El Gambiente. C'est une association qui d'habitude s'occupe plutôt de questions environnementales, développement durable, etc. Et qui cette fois, vraiment passionné pour la cause des migrants. Ce sont des gens qui sont pas forcément très informés au départ de ces sujets, mais qui s'y intéressent de façon très intéressante, qui se prennent vraiment part au projet. Ils sont pas juste là pour faire les navigateurs dans une cause qui serait à l'écart, d'eux. Vraiment, ils participent aux conférences de presse, ils nous interrogent, ils réfléchissent avec nous et ils nous aident à rencontrer des marins, des responsables de capitainerie, des gardes, je prononce à l'italienne, de la Guardia Costiera, des gardes-côtes, etc. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir tous ces contacts. Il y a peu d'organisations, apparemment d'organisations syndicales ou d'organisations professionnelles des marins, mais il y a des organisations un peu informelles. Et puis, il y a des corps qui agissent en mer. Et c'est très, très intéressant de savoir quelle est leur logique, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils savent de la convention SAR, par exemple, les obligations qu'elle pose, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une très grande réussite, ce voyage en bateau.
Ça, c'est très important de le dire. Et il y aurait voulu qu'on aborde un petit thème aussi, un petit sujet sur le tour que vous avez fait, la Boats for People. Mais je crois qu'il y a Sekouba qui voulait te poser une question avant. Donc c'est Kouba qui anime l'émission maintenant avec moi très souvent.
Oui, oui. Bonjour, c'est Kouba.
Bonjour, Viren.
Oui.
En fait, la question, je ne veux pas dire une seule question, à peu près deux ou trois questions. C'est-à-dire, quand vous disiez qu'ils essayaient de menacer les marins, donc concernant les sauvetages des traversées, et surtout, je parlais de la partie où ils ont dû menacer certains marins ou c'est pas les arrêter parce qu'ils ont sauvé des personnes qui traversaient la mer.
Oui.
Donc c'est cette partie je vais rebondir sur là-dessus. Donc ils comptent interdire aux marins donc de sauver les traversiers, donc les gens qui traversent pour atteindre l'autre côte de la Méditerranée.
Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'ils comptent, donc l'Europe compte interdire aux marins d'eux, mais on est vraiment à la jonction de deux droits qui s'opposent dans leurs effets.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a le droit de la mer, lui, il est clair, et il a été réaffirmé, c'est ce que je disais tout à l'heure que ça me paraissait important d'insister là-dessus, y compris auprès des marins, mais auprès de tout le monde, c'est que ces obligations, elles sont absolument formelles, qu'en justice, elles ont été rappelées à plusieurs reprises. Le problème, c'est que sauver des gens, c'est une chose, mais une fois que vous avez pris à bord votre bateau, par exemple, 20 personnes, ou 30 personnes, ou 50 personnes, ça dépend de la taille du bateau et du nombre de naufragés, la question qui se pose, et elle va être cruciale, c'est qu'est-ce que vous en faites de ces personnes? Parce que on a assisté à des actions, par exemple, je pense à une qui me paraît très intéressante, c'est un bateau italien qui a appris qu'un bateau de migrants venait de partir des côtes libyennes. Et le bateau italien est allé à la rencontre de ce bateau parti des côtes libyennes et l'a intercepté. Et en fait, après, pour leur défense, ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas intercepté, c'est qu'ils l'avaient secouru. Mais en fait, ils ont ramené les migrants en Libye. Donc voilà, c'est un exemple de la façon dont on peut essayer de, dont les États et l'Union européenne peuvent essayer de tricher sur les règles du droit de la mer et faire semblant de faire un sauvetage alors qu'en fait elles ont intercepté un bateau et elles l'ont empêché de passer. Oui. De la même façon, le fait de poursuivre des personnes, des pêcheurs ou des plaisanciers ou des partants de cargo, hein, ça peut être toutes sortes de, d'équipements de bateaux. À partir du moment où les gens savent qu'ils risquent d'être poursuivis parce qu'ils auront à leur bord des personnes qui les auront ramenés à une côte où on leur dira bah non, vous n'avez pas à les ramener là, ou bien on va les laisser en mer pendant des jours et des jours et des jours sans les autoriser à se poser sur un territoire donné, bien évidemment ça veut dire beaucoup de choses pour un bateau, parce que vous avez des jours de navigation perdus, parce que vous avez peut-être de l'eau qui va être en pénurie, peut-être ce que vous transportiez, les marchandises qui vont être périmées. Enfin, voilà, et donc tout cela, c'est évidemment des mesures de dissuasion exactes.
Oui, des mesures pour décourager donc les sauveteurs donc en un seul mot quoi.
Je n'ai pas compris, pardon.
J'ai dit de prendre des mesures pour pouvoir les décourager donc de toute manière pour qu'ils ne puissent pas venir en aide des personnes comme on l'a dit, non, pour qu'ils viennent pas à l'aide des personnes qui sont en danger en un seul mot.
C'est une mesure de dissuasion, voilà, tout à fait, pour décourager.
Oui. Au fait, comme vous êtes à Lampedusa maintenant...
Comment je suis quoi?
À Lampedusa, je crois...
À Lampedusa.
Oui, oui. Au fait, comment ça se passe avec Boat for People et l'autorité de Lampedusa? Donc, quelles sont leurs opinions sur votre association et votre pensée? Donc, est-ce qu'ils vous soutiennent ou ils sont tout à fait... D'accord. Contre la traversée de la mer.
Oui,